bonjour.
Parlons de votre film, parlons des différentes étapes de ce projet de tourner la rafle.
Oui, alors d'abord, ce sont des recherches. D'abord, c'est une idée qu'on a eue il y a une dizaine d'années, mais qu'on n'a pas osé mettre en œuvre, parce que je pense qu'il fallait qu'on attende d'abord d'en avoir un peu le courage, en tout cas pour moi, parce que je savais bien que je m'attaquais à une espèce de montagne de documents, d'une part, et puis aussi de tragédie, à une tragédie tellement forte, parce que si, quand on parle de guerre, généralement, on parle de, si vous voulez, d'adultes qui s'en prennent à d'autres adultes en priorité. Et les autres pertes sont, comme on dit aujourd'hui, poétiquement collatérales, tandis que là, la rafle du Valdiv, c'est 13 000 personnes, dont 4 051 enfants déportés qui ne sont jamais revenus. Donc ça voulait dire beaucoup de souffrance à affronter, et généralement, quand on le fait, on est seul, parce que vous travaillez avec vos archives, vous lisez des choses, vous lisez des témoignages, vous récupérez des lettres. Et moi, ce qui me bouleversait le plus, c'était les lettres d'enfants. Elles ont été publiées, elles ont été collectées, souvent par Serge Klarsfeld, qui a été historien sur mon film, et qui me faisait parvenir des mots d'enfants de 10, 11 ans. Des enfants qui avaient été parfois raflés seuls, même sans leurs parents, car c'est arrivé, se retrouver dans les camps de Bonnard-Hollande, ou bien leurs parents avaient déjà été déportés, ils étaient seuls, et ils envoyaient des petits mots, y compris à leur concierge, qui finalement était la seule personne vers laquelle se tourner. Et je savais que, face à moi, j'avais cette montagne de petits mots, de témoignages des infirmières, et qu'il allait falloir s'accrocher. Parfois, c'était le cas, mais en fait, j'étais bien entourée. Tout le monde était, comment vous dire, très unis dans ce projet. Il y a des films, quand vous les faites, c'est pas des films, ce sont des causes. Celle-là, elle était juste, et puis on avait envie de le faire savoir. Et ça ne faisait que trois lignes dans les livres d'histoire. Donc on s'est dit, on va le raconter vraiment frontalement. Et on l'a décidé avec Alain Goldman, qui en est le producteur, parce que cette histoire, évidemment, le touchait particulièrement. C'est une famille de Juifs de Montmartre, arrivée de Pologne dans les années 20, cette famille-là, très pauvre, et pour qui Montmartre, qui à l'époque n'était pas, si vous voulez, le quartier bohème chic qu'il est devenu maintenant, c'était très insalubre, mais bon, les Juifs arrivaient des pays de l'Est, s'installaient là, ils étaient tellement heureux qu'il n'y ait plus de pogrom. Donc cette communauté s'est installée là, sa famille en était. Et au moment de la rafle, ils ont échappé à la rafle, d'un côté parce que toute une famille du côté de sa mère a décidé de s'enfuir en se disant « il faut qu'on se cache, on n'a pas confiance, on nous demande de porter l'étoile ». Et l'autre parce qu'ils sont partis au marché encore plus tôt que la rafle n'a commencé. À 4 heures du matin, ils étaient hors de chez eux. Quand ils sont revenus, la rue qui était entièrement juive avait été entièrement raflée et leur appartement était sous-scellé. Mais c'est grâce à tout ça, si vous voulez, qu'Alain Goldman est vivant, qu'il est là, qu'il existe. Et c'est aussi grâce à ça que le film s'est fait. Parce que je ne pense pas que moi, en tant que chrétienne, même concernée par les souffrances des autres communautés, je ne crois pas que je l'aurais fait si on n'avait pas été aussi proches et si tout ça ne m'avait pas touchée comme ça m'a touchée en ayant des enfants moi-même, vous voyez.
Oui.
C'est en fait ce qui nous a motivés. La motivation était vraiment très, très grande. Et je crois que c'est pour ça qu'on a tenu le coup pendant les 5 ans qui ont été nécessaires pour faire ce film.
On n'a jamais fait un film sur la rafle du Valdiv, c'est le devoir de mémoire.
Pour les générations futures, je dirais, vous voyez, parce que mon tempérament, moi je suis quelqu'un de la Méditerranée, je suis catalane, italienne d'origine, enfin beaucoup de choses mélangées, mais du sud. Et en fait, ce sont des populations qui sont assez tournées vers le futur, vers l'espoir. Et en fait, ce que je voulais, c'était que les gens sachent ce qui s'est passé dans un pays qui avait inventé les droits de l'homme, qui avait fait la Révolution française, qui était une démocratie depuis déjà pas mal de temps, et comment tout pouvait basculer aussi rapidement, parce que je me dis que quand un homme averti en vaut deux, et que quand les populations savent ce qui s'est passé dans l'histoire, eh bien, on a quand même quelque chance que ça ne se reproduise pas. Donc l'idée, c'était de le faire pour les jeunes et pour demain. Et voilà, c'est dans cette optique-là, si vous voulez, que je l'ai en tout cas écrit, puis ensuite réalisé.
Vous savez, sur l'affiche du film, il y a une citation de Joseph Weissmann en anglais. Il dit « It is important to tell this story to the youth of today. It is they who will write the story of tomorrow. »
Oui, c'est vrai, exactement. Indispensable, oui, c'est une très belle chose. Ça a été d'ailleurs indispensable de le rencontrer. Vous voyez, ça faisait partie de ce que je souhaitais faire. C'est-à-dire que, sachant que tout ça s'était terminé par de la tragédie et par de la mort, je me disais, il faut quand même qu'il y ait un peu d'espoir dans tout ça, et j'étais certaine que j'allais retrouver des survivants. Et Clarcel me disait, parmi les enfants qui sont montés dans les trains, impossible. Et puis, bon, si, il y a eu quelques évasions assez précoces dans le temps, c'est-à-dire que quand tout le monde a été regroupé au Vélodrome d'hiver, alors là, oui, on a eu, comment dirais-je, des gosses, des ados qui ont bousculé tout le monde et qui se sont enfuis. Mais moi, je voulais qu'on aille jusqu'au camp français parce qu'il y a eu 200 camps en France et rares sont les Français qui le savent, des camps avec des barbelés, des miradors, des chiens policiers, sauf que les uniformes étaient français. Et les gens qui étaient enfermés là, franchement, ça, ils n'avaient pas vraiment trois repas par jour. Et ça, on a complètement oublié que ces camps existaient, qu'ils ont existé dès 1940, qu'on y a mis les Juifs avant même que les Allemands le demandent. Enfin, toutes ces choses-là étaient inconnues. Donc, il me fallait, en gros, un survivant ayant vécu dans ces camps, ayant partagé le sort de tous ces détenus, et qui soit encore parmi nous pour raconter. Et là, Clarcel me dit, mais Rose, c'est complètement impossible. Moi, j'en connais pas, je crois pas.
Comment a été cette rencontre avec Joseph Weissmann ?
Oh ben, étonnante, parce que d'abord, je le cherche pendant 3 ans, ce témoin. 3 années, c'est long, et je le trouve pas. Et puis finalement, mon beau-père m'amène une cassette d'une émission de télé qui a 18 ans. Il met cette cassette, et il y a un documentaire qui a 18 ans, vous voyez, c'est pas tout à fait nouveau. Et il y a une personne qui, à l'époque, est déjà âgée, qui se met à témoigner. Il dit, j'avais 10 ans à l'époque, et je me suis évadée du camp de Bonnard-Hollande. À 10 ans, seule avec un petit copain. Je me dis, mais c'est lui mon personnage. Sauf que quand vous avez une cassette qui a 18 ans, vous ne savez pas si cette personne est encore vivante, si elle est encore parmi nous, si elle est encore en France, est-ce qu'il a immigré, est-ce que... Voilà, je l'ai cherché partout et finalement, j'ai trouvé sa trace dans une lettre qu'il avait adressée à Simone Veil, dont j'ai eu une photocopie. Cette lettre avait une adresse. À cette adresse, il ne correspondait aucun téléphone. C'était dans la ville du Mans, dans le Nord, en France.
Oui.
Et je me suis dit, la lettre avait 15 ans, je me suis dit, c'est pas grave, j'envoie une lettre en lui disant, voilà, vous avez dit dans ce reportage, car c'est ce qu'il disait, écoutez bien, c'est ahurissant. Il disait en pleurant, je crois que personne n'osera jamais faire un film sur ce qui nous est arrivé. Et moi, je lui dis, ben écoutez, nous, ce film, on est en train de le faire, et si vous êtes encore parmi nous, ou vos enfants, que quelqu'un me rappelle parce que vous êtes le personnage principal. Et j'étais j'étais à l'aéroport, ce n'est pas une blague, en partance pour Los Angeles, le bureau nous a appelés en disant, vous avez un certain Joseph Weissmann en ligne, et il dit que vous comprendrez. Et je dis, alors écoutez, parlez-lui tout de suite, dites-lui que dans 11 heures, j'atterris, et je vais l'appeler tout de suite. Et donc on s'est appelé, on s'est donné rendez-vous, et on s'est rencontrés, on s'est donné rendez-vous sur les Champs-Élysées. Et puis on s'est tombés dans les bras l'un de l'autre parce que, c'était tellement inouï qu'il y ait 15 ans, il ait envoyé ce message comme ça en l'air en disant peut-être que personne n'osera jamais, est-ce que quelqu'un osera jamais faire un film ? Et puis que 15 ans plus tard, je retrouve ce message et qu'il devienne le petit héros de l'histoire. Donc une sorte de boucle dans le temps s'est bouclée comme ça. Mais dans ce genre de film, et Roman Polanski, quand il a fait Le Pianiste, il me l'avait dit, il m'a dit, il y a des concours de circonstances qui sont vraiment... étonnant, même si on ne croit à rien, c'est bizarre ce qui se passe avec ce type de projet.
Roselyne Bosch, on parle aussi d'Annette Monod, l'infirmière. C'est une femme exceptionnelle, l'héroïne, qui est jouée d'ailleurs par Mélanie Laurent, dont le grand-père, je crois, a été déporté à Auschwitz, c'est ça ?
Oui, elle est, plus exactement, elle est la petite-fille de ce qu'on a appelé un enfant caché.
Ouais.
Donc les arrière-grands-parents ont été déportés, ils sont restés d'ailleurs. Mais lui a été un enfant caché dans la campagne française par des Français, non-juifs évidemment, qui cachaient comme ça, qui ont sauvé des tas d'enfants. On dénombre 2500 justes, ça c'est le chiffre officiel, des gens qui auraient aidé les juifs pendant la guerre. En réalité, ils sont énormément plus nombreux. D'ailleurs, la preuve, c'est que Annette Monod, cette infirmière dont j'ai retrouvé trace dans des interviews qu'elle avait données de son vivant, elle est disparue en 2005, je n'ai pas eu l'occasion de la connaître personnellement, mais elle en est une, mais simplement elle n'a pas reçu cette médaille, si vous voulez, ne l'ayant jamais sollicitée. Mais voilà une infirmière qui a eu un parcours mais complètement exceptionnel, qui sort de l'école pratiquement la même année, qui se retrouve au Vélodrome d'hiver, qui constate que 8000 personnes sont entassées là dans des conditions d'insalubrité incroyables, et qui va partager leur sort jusqu'au départ des trains, qu'elle ne pourra évidemment pas empêcher à elle seule. Mais c'est une femme qui s'est retrouvée après à l'hôtel Lutetia à recueillir les survivants, à les retrouver. Et elle a évidemment connu Joseph Weissmann Et donc j'ai pu réunir à l'écran ces personnes qui s'étaient, que leur destin avait fait se croiser. Du coup, j'avais, si vous voulez, des parcours tellement exceptionnels et en même temps tellement vrais, parce qu'une chose qui m'aurait révoltée, vous voyez, c'est d'inventer, parce que quand vous avez comme ça, vous êtes un peu dépositaire de la mémoire de gens qui ont vécu une chose pareille, je trouve que ça aurait été un peu obscène et un peu prétentieux d'inventer. Il n'y avait rien à inventer, tout était là, il fallait simplement retrouver tous ces personnages et puis leur rendre une vie, une personnalité, les recréer, parce que Joseph, sa mémoire s'est interrompue quand il avait 11 ans, et on ne se rend pas compte à quel point, à 11 ans, c'est encore très jeune, et donc il avait peu de détails à me livrer de ses parents et de ses sœurs, parce qu'il en avait, il les avait un peu, ils étaient un peu oubliés, c'est terrible à dire, mais tellement d'années après, c'est plus près de 70 ans plus tard. Donc il a fallu recréer ces personnes, leur recréer des dialogues entre elles et comment cette famille fonctionnait. Et voilà, ça c'est le travail du scénariste. Sinon, les destins de chaque personne dans ce film, absolument tout le monde, je ne sais pas moi, de la concierge en passant par la crémière, sont des personnages réels.
Oui, donc tous les personnages du film ont existé.
Tous, y compris le petit enfant de la fin, je ne veux pas tout dévoiler, mais
non, non.
Il existe toujours, il est en Belgique, il a 75 ans, je crois, maintenant. Y compris l'intervention des pompiers. J'en ai retrouvé un qui a 91 ans, qui vit à Bordeaux. Je l'ai retrouvé miraculeusement. Il a fait partie de cette escouade de pompiers très courageux qui, d'ailleurs, à la suite de cette rafle, sont entrés tous dans la résistance et ont donné les plans à Londres des hangars à munitions qui se trouvaient à Paris. Ça a été l'occasion du premier bombardement allié sur la capitale, vous voyez. Donc, vous retrouvez des personnes qui étaient des personnes toutes simples et qui se sont comportées de manière tellement exceptionnelle et tellement héroïque, quand bien d'autres, dans les mêmes conditions, se comportent comme des salauds et on ne sait pas pourquoi. C'est, la nature, comme ça, se révèle dans des conditions extrêmes. C'est toujours... voilà, j'ai trouvé ça plus enthousiasmant, si vous voulez, que de faire un film sur un divorce ou voilà, sur des choses qui me paraissaient tellement anecdotiques. Il y avait cette histoire-là à raconter et on l'a fait dans un élan qui nous a porté, qui nous a amené jusqu'en Hongrie, où on a reconstruit le Veldiv, reconstruit le camp et mis plein d'enfants là-dedans et protégé les enfants aussi, parce que il faut les protéger des possibles traumatismes qu'engendrerait le fait de reconstituer cette histoire, parce qu'il y a des moments très violents, évidemment. Il y a eu des bousculades terribles au moment des séparations.
Et brutales.
Et tous ces gosses, je me rappelle, donc j'en avais, disons, une quinzaine qui étaient français, tous les autres étaient des petits Hongrois. Alors on s'est entouré de spécialistes, de gens à qui j'ai fait des mots pour les parents, pour qu'ils commencent à parler à leurs enfants. Et puis ensuite, sur le tournage, je leur disais sur le plateau, ben voilà, vous êtes soi-disant des extras en anglais, des figurants. Mais en fait, il n'y a pas de figurants, parce que j'ai besoin de vous, j'ai vraiment besoin que vous participiez. Vous ne faites pas que meubler une rue comme ça, à l'arrière-plan. Vous êtes des petits qui êtes enfermés dans un camp. Et pour tous ceux qui me comprennent, parce que je faisais tout traduire, évidemment, je disais, aujourd'hui, là, j'ai besoin qu'au moment où on dira action, vous soyez dans cet état dans lequel vous pouvez imaginer qu'un enfant peut se trouver si on va le séparer de ses parents. Eh bien, comme on avait constitué des familles de cinéma, des familles artificielles, on s'était dit le premier jour, on avait mis 500 personnes sur une esplanade, et j'ai dit, aux enfants, j'ai dit, choisissez-vous un père, une mère, des frères et des sœurs et des grands-parents, allez-y. Et ils se sont choisis parmi des inconnus, vous voyez, 500 personnes qui étaient là. Et chaque jour, pendant 3 semaines, où on a fait ces scènes de camp, ils se retrouvaient tous les matins, comme des familles. Du coup, lorsqu'on a tourné les scènes de séparation, bah, évidemment, c'était poignant parce que les regards se cherchaient vraiment.
On note l'innocence des enfants durant le film, l'ignorance des événements autour d'eux, n'est-ce pas ?
Oui, parce que, alors ça, si vous voulez, pour avoir été, j'ai pas commencé ma vie dans le cinéma. J'ai d'abord été pendant 14 ans grand reporter dans un journal qui est Le Point, que j'imagine que les francophones connaissent. Et donc, à ce titre, si vous voulez, j'ai vu beaucoup de conflits de toutes sortes, un peu partout dans le monde, en Asie du Sud-Est, en Afrique. Et une chose qui est vraiment frappante dans les camps de réfugiés, c'est que les gosses continuent d'être des gosses et qu'ils jouent. Alors ils jouent à ceux qu'ils connaissent, alors ils vont jouer à la fouille, ils jouent à la rafle, ils jouent à l'arrestation. Vous savez, c'est incroyable de les voir, quelle que soit leur culture, quel que soit leur âge, mais ils sont toujours là avec cette, jusqu'à en tout cas je dirais 8-9 ans après, l'enfance se dissipe et la conscience arrive. Et d'ailleurs, elle arrive très vite dans des conditions extrêmes. Il a été décrit, si vous voulez, que autant les tout-petits étaient complètement innocents, continuaient de jouer même s'ils crevaient de faim et qu'ils se plaignaient tout le temps de la faim, autant ceux qui avaient 11 ans avaient une conscience aiguë de ce qui était en train de se jouer. Et dès l'instant où leurs parents ont été déportés avant eux, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus faire confiance au monde des adultes. Et ils s'occupaient des plus-petits. Et puis au bout d'un moment, vous en avez certains qui n'avaient plus personne dans le camp et qui se sont dit « je m'évade ». Et ceux-là ont été rarissimes. Il y en a eu deux, Joseph Weissmann et un autre qui s'appelait Joseph Kogan, qui ensuite a émigré aux États-Unis où il est mort, il y a quelques années à peine, enfin 5 ans je crois. Et ces deux petits garçons de 10 ans se sont dit « c'est fini, on n'a plus confiance, on ne retrouvera jamais nos parents, c'est pas vrai, ils nous mentent, et sauvons notre peau ». Alors ça peut être, c'est un peu extrême de se dire qu'un enfant va penser à lui et ne va pas avoir ce sens du sacrifice et ne va pas accompagner les plus petits jusqu'au bout. Mais vous avez des gens qui ont la vie chevillée au corps comme ça, et puis d'une certaine manière, s'ils n'étaient pas là, on ne saurait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, ce sont des tragédies qui sont des révélateurs extrêmes de l'âme humaine, et ces deux gosses ont eu le courage de braver les policiers, les gendarmes, les chiens de garde, les barbelés, et ont vécu 3 ans après, pendant 3 ans en tout cas en France, dans la clandestinité.
Et la rafle du Veldiv, c'est aussi la collaboration française de la Deuxième Guerre, c'est une période noire de l'histoire de France et des Juifs de France.
Oui, qui a été finalement assez peu explorée par le cinéma. Il y a eu des tentatives, mais je dirais que là, si vous voulez, le cinéma, souvent, il sublime ou alors il stylise. C'est un choix. Mais pour nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens comprennent par quel mécanisme politique un pays comme la France en était arrivé à lâcher ses concitoyens. Parce que ce n'est pas seulement des étrangers sur leur sol qui ont été expulsés, ce qui ne rendrait pas le crime moins dramatique. Mais on pourrait se dire, c'est la guerre et la France se dit, on ne peut pas nourrir tout le monde, alors on va donner les Juifs étrangers aux Allemands, par exemple. Mais là, ils sont allés jusqu'à dénationaliser, à priver de leur nationalité, d'échoir de leur nationalité française, des tas de Juifs qui l'avaient, cette nationalité, et depuis longtemps, souvent, et à exiger, en plus, des Allemands qu'ils prennent aussi les enfants. Car une des choses les plus terribles qui soient arrivées, c'est que les Allemands, au départ, créant leur camp au mois d'août, les camps viennent d'être créés, les camps d'extermination, et en fait, il s'avère qu'ils sont débordés. Donc au départ, ils disent aux Français, puisqu'ils collaborent, « Gardez-nous les enfants, on les prendra plus tard. » Et la France, Pétain et Laval, de manière tellement indigne, exigent que les enfants partent en même temps parce que c'est une charge pour eux. Et donc le film, j'ai voulu montrer l'été meurtrier 42, c'est-à-dire l'été des innocents que sont ces Juifs qui ne savent pas quel va être leur sort, l'été du broyeur qui se met en place avec d'un côté les collaborateurs français, Pétain, Laval et leur gouvernement qui mettent en place cette machine infernale de rafle en mettant toutes leurs unités au service des nazis. Et de l'autre côté, l'été d'Hitler et d'Himmler sur la terrasse du Berghof. Tout le monde est en villégiature là-dedans, même tout le monde. Hein, était entre, tout ça se passe entre le 6 juin et la fin août. Et de montrer tous ces gens en vacances et comment ces gens-là décident du sort funeste de dizaines de milliers de personnes.
Et la responsabilité de la France dans la Shoah n'a été reconnue qu'en 1995.
En 95 par Chirac. C'est le premier président qui, en effet, de manière tout à fait officielle, a déclaré que la France reconnaissait avoir été responsable, parce que jusque-là, tous les présidents s'abritaient derrière le fait que de De Gaulle à Mitterrand, ils s'étaient tous abrités derrière le fait que ça n'était pas la France, puisque c'était la France de la collaboration. Tout ça, c'était des jeux de mots et des euphémismes, parce que l'histoire d'un peuple n'est pas une histoire en pointillé, c'est une continuité. Et je pense que les peuples doivent, et les gouvernements, surtout les politiques, ne peuvent pas ne pas prendre en compte ce qui s'est passé avant eux. Chirac a été le premier à avoir le courage de le faire, il a fallu 70 ans. Et ça a été ressenti comme un immense soulagement de la part des rescapés. En France, je l'ai su parce que je les ai fréquentés et ils m'ont dit à quel point en 95 ce discours avait été mais essentiel pour eux parce qu'ils disaient on a reconnu enfin qu'on avait que c'est comme reconnaître, si vous voulez, l'assassinat de nos proches, puisqu'il n'y a pas de tombe, imaginez, il n'y a rien du tout. Il y a des noms sur des murs gravés comme ça, c'est tout. En mémorial à Paris. Et c'était une douleur immense parce que non seulement ce pays l'avait aimé et ils étaient restés même après la guerre, mais malheureusement les politiques ne reconnaissaient rien. Donc il a fallu attendre tout ce temps. Je crois que la France est un des pays les plus lents à faire ce type de travail. Je suis allée sortir le film en Allemagne, à Wiesbaden notamment, où a eu lieu l'avant-première.
Ouais.
J'y suis allée avec Beate Klarsfeld, qui est allemande, mariée à Klarsfeld, donc. Et j'ai constaté à quel point l'Allemagne, évidemment, avait fait un travail énorme. Il n'y a pas une seule personne là-bas, pas un seul écolier qui ne sache ce qui s'est passé. Alors, en même temps, je sais que beaucoup de gens sont agacés en France en disant on ne peut pas être tout le temps dans la repentance. Mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le voir. C'est comme quelque chose qu'il faut regarder. Il faut regarder la bête en face et puis se dire, nous décidons aujourd'hui que ça n'arrivera plus jamais. Ça sert à... Je veux dire, en fait, connaître son histoire sert à faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Mais c'est vrai, la France a été extrêmement lente à admettre ces crimes.
Roselyne Bosch, on parle un petit peu du film qui a sûrement marqué les acteurs. J'imagine que vous aviez en tête Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh pour le casting ?
Oui, et très honnêtement, je n'imaginais même pas qu'ils me disent oui tous les trois, et surtout qu'ils le disent aussi vite. Parce que si vous voulez, ce que les gens ignorent, c'est que quand vous proposez un projet à un acteur, ben, vous n'êtes pas le seul. Il y a énormément de scénarios qui leur arrivent. Et pour deux d'entre eux, en tout cas, je les connaissais un tout petit peu, mais ça ne change rien. Ils m'avaient dit non bien des fois à d'autres projets auparavant. Et là, en fait, ils ont dit toujours oui en quelques heures. C'est-à-dire qu'ils lisaient le scénario, ils nous rappelaient, ils disaient on le fait. Ils l'ont fait aussi dans des conditions financières. Si vous voulez, ce n'est pas le type de film sur lequel vous vous dites que vous allez faire des profits. Donc, on a tous mis nos salaires dans le budget pour que le film puisse se faire. C'est cher de reconstituer comme ça le vélodrome et les camps. Ils l'ont fait sans la moindre hésitation. Ils ont été là, ils ont été formidables et on est tous tombés malades. Évidemment, ça vous travaille quand même. Et une fois qu'on a été sur les lieux de tournage et qu'on s'est vus tous, enfin qu'on était tous là au milieu, enfin eux particulièrement, en haillons, maltraités, bousculés, etc. Ben Jean Reno nous a fait une aphonie terrible, il n'avait plus de voix le jour où il fallait qu'il injurie un Allemand en allemand. Mais Mélanie Laurent a fait une espèce de zona avec des migraines terribles, un truc ophtalmique pas possible. Et quant à Gad Elmaleh, alors lui il était extrêmement stressé parce que quand vous êtes sur un plateau comme ça, vous avancez et puis vous marchez au milieu de l'histoire. Hein. C'est tellement réel. Une fois que vous avez les gendarmes qui sont là et les barbelés, vous êtes replongé 70 ans en arrière. Mais ils l'ont fait avec beaucoup de courage et énormément de dignité et sans esbrouffe, sans exploiter ça dans leur carrière de manière, indigne. Moi, j'ai été enchantée de travailler avec eux et je recommencerai demain matin. Vraiment, ça a été une expérience magnifique pour tout le monde.
Je peux vous dire que, comme je disais au début de cette interview, que le film a été bien accueilli et bien reçu par les cinéphiles australiens lors du Festival du film français de l'Alliance française récemment.
Ben, j'en suis très heureuse. Ça me fait très plaisir, je le dirai à mes petits camarades.
Vous travaillez sur d'autres projets en ce moment ?
Oui, je travaille sur un autre projet historique qui n'a pas grand-chose à voir, mais ça vous paraît très étrange, mais c'est un projet que j'ai depuis 1992, parce que j'avais commencé par écrire Christophe Colomb, pour Depardieu,
oui.
Et puis aux alentours de 93, après ce film-là, j'ai voulu m'attaquer à une autre biographie qui était celle de Rasputin, et je le fais en fait avec Jean Reno l'année prochaine, l'hiver prochain, en Russie. Donc c'est une biographie où il sera, lui, je pense, le seul acteur français entouré d'acteurs qui seront russes, anglais, etc., comme à l'image de la cour du tsar à cette époque-là. Et ce qui m'a intéressé, c'était, si vous voulez, comme pour Christophe Colomb, c'est un peu le même cas de figure, quelqu'un qui arrive du peuple, qui monte dans les sphères du pouvoir et qui, en fait, est détruit pour cette seule raison. Et je trouve qu'il y a dans les biographies historiques un espèce de condensé de l'humanité. On a tout à la fois dans ses destins. Tout ce qui fait l'humain s'y trouve. Donc voilà, c'est à cela qu'on travaille en ce moment.
Roselyne Bosch, ouais. Merci infiniment d'être intervenue sur les ondes de Radio SBS en Australie.
C'est un plaisir. Et j'espère à bientôt. J'espère avoir l'occasion de visiter ce continent qui est un des continents que je connais pas du tout.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.